Les informations, Mimi Ngumba Mulongo. Meurtre à Mbandaka, la victime, un policier abattu par des militaires ce matin. Conséquence de l'insécurité sur l'axe Mbandaka-Bolenge. L'Assemblée nationale n'a toujours pas reçu le texte de l'avant-projet de la Constitution. Les services qu'il apprête au niveau du Sénat traînent les pieds. Détail dans un instant avec Georges Kamoudjova au Palais du Peuple. Poursuite du désarmement de miliciens en Ituri. Trois autres officiers de l'UPC Lubanga ont remis les armes à la MONUC ce week-end. À tous et à toutes, bonjour. À l'Équateur, un policier a succombé ce matin de ses blessures par balle à l'hôpital général de Bolenguet, localité située à 9 km de Mbandaka. C'est une des victimes de l'insécurité créée par des hommes en uniforme sur la route Mbandaka-Bolenguet. De précision de Mbandaka avec Paul Richard Malengela.
Le brigadier en chef Albert Nginda a été grièvement blessé par balle par des hommes en uniforme. Il rentrait d'une visite familiale à Yunda, à 15 km de Mbandaka. Mais l'incident a eu lieu sur le tronçon Mbandaka-Bolenguet, à environ 7 km du chef-lieu de l'Équateur. Selon des témoignages concordants, la victime était tombée dans une embuscade tendue par deux militaires en armes à 4 h du matin, probablement par des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, basées au camp Bokala. Les deux militaires lui ont d'abord ravi de l'argent et une lampe torche. Mais la bagarre s'est engagée lorsque les deux hommes armés ont tenté de lui ravir sa bicyclette. Pour neutraliser le policier, un militaire lui a tiré une balle dans la jambe gauche. Les malfaiteurs ont ensuite disparu dans la nature avec leur butin. Le policier devait succomber plus tard de ses blessures à l'hôpital général de référence de Bolenguet, où il a été transporté par des habitants. La population déplore l'insécurité grandissante sur ce tronçon routier. En l'espace d'un mois, trois personnes, dont une jeune fille, sont tombées dans le filet de ces militaires, apparemment incontrôlés. Ils pillent des champs, extorquent tout sur leur passage et violentent les passants sans être inquiétés. Mbandaka, Paul Richard Malengela, Radio Okapi.
Et puis au nord Katanga, de Pygmées de Miketo, village situé à une quarantaine de kilomètres de Kalemie, se plaignent de harcèlement et pillage de policiers. Après avoir été tracassé pendant 3 mois par les Maïmaï, le Pygmée de ce village dit être maintenant victime de policiers du chef de ce groupement. Pas plus tard que la semaine dernière, ce policier aurait pillé dans les maisons de ses habitants. Esther Ndalafina pour plus de détails.
5 pygmées se sont présentés jeudi soir à la MONUC Kalemie. Ces pygmées viennent du village de Miketo à une quarantaine de kilomètres de Kalemie. Ils prétendent avoir été victimes de tracasseries la semaine dernière. Selon eux, trois policiers du groupement Miketo sont descendus chez eux pour leur demander de l'argent, de la farine et des poules. Ces policiers les ont ensuite dépouillés de leurs biens. Témoignage d'un de ces pygmées.
Ils sont arrivés, ils étaient au nombre de trois. L'un s'appelait André, l'autre Mombo et Congolo. Quand ils sont arrivés, ils nous ont demandé des poules et la ration. Je leur ai donné 400 francs congolais. J'ai encore ajouté 400 francs. Ce n'est pas la première fois. Ils ont fait semblant de partir. À leur retour, ils ont pris des poules et de l'argent. Ils nous font travailler sans pour autant nous payer. Que le chef Tumbwe nous cherche une autre place pour vivre. Nous sommes vraiment tracassés. Si la solution n'est pas trouvée, nous allons rentrer en brousse.
Mais de Miketo se plaignent que ce n'est pas la première fois qu'ils sont inquiétés. Il y a quelques mois, ils étaient victimes de pillages de la part des Maïmaï. Aujourd'hui, ce sont les policiers censés les protéger qui les tracassent. Kalemi, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Et puis à Kinshasa, le texte de l'avant-projet de la Constitution n'est pas encore déposé à l'Assemblée nationale. 3 jours après son adoption au Sénat, le service chargé de le nettoyer avant transmission tourne au ralenti. Rien ne rassure que ce texte sera déposé ce soir ou demain. Depuis le siège du palais du Parlement de transition, Georges Kamoudjova.
Le travail qui reste à accomplir sur le texte consiste à corriger des fautes de frappe et d'orthographe. Le texte sera ensuite déposé en même temps que les rapports des travaux. Mais les services de secrétariat voudraient rendre fidèlement les préoccupations soulevées par les sénateurs lors des séances. Si la volonté y est, c'est la motivation qui fait défaut. Certains administratifs chargés d'exécuter le travail affirment n'avoir pas reçu la prime nécessaire au cours de cette session extraordinaire. Ils disent avoir les yeux tournés vers le ministère des Budgets pour une solution rapide. Les deux chambres du Parlement s'étaient pourtant résolues d'échanger leurs documents le 15 mars dernier. l'Assemblée nationale, qui a adopté le projet de budget 2005, un jour après le délai d'histoire, a déjà fait son devoir. Son texte a été déposé au Sénat samedi dernier. Si le Sénat dépose aussi son texte à l'Assemblée nationale dans les 48 heures, l'obstacle sera donc franchi et les deux chambres du Parlement pourront chacune passer à l'adoption du texte soumis. Un travail à accomplir avant la session ordinaire qui s'ouvre en début d'avril. Depuis le Palais du Peuple, Georges Kamoudjova pour Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, un désaccord règne entre la Commission électorale indépendante et les gouvernorats sur les statistiques démographiques de la province. La Commission électorale indépendante parle de 1 600 000 habitants, un chiffre en dessous de la réalité selon les gouverneurs, qui craint une réduction du nombre des bureaux d'enrôlement. De précision, Sadala Chabani.
C'est lors de la visite du président de la CEI qu'est à Paris ce désaccord. L'abbé Apollinaire Malumalu, président de la Commission électorale indépendante, est venu à Kindu pour lancer la campagne de sensibilisation aux inscriptions électorales. Dans son livre des comptes, un peu plus d'un million d'habitants pour tout le Maniema. Un chiffre insuffisant pour le vice-gouverneur Massoudi Mendes.
Le Maniema a 2 millions d'habitants, mais curieusement, dans vos rapports, dans les rapports qui proviennent de Kinshasa, on parle d'1 100 000. Cela inquiète l'autorité administrative que nous sommes.
Pour rassurer le gouverneur, l'abbé Malumalu n'évoque que des statistiques provisoires.
Nous allons inviter à Kinshasa, pour chaque province, au moins 5 divisions. C'est là que nous fixerons les données démographiques. Les données démographiques que nous cherchons, c'est pour les opérations. Ce ne sont pas les données démographiques pour les circonscriptions électorales. Ça, il faut attendre la loi électorale pour le faire. Là, c'est pour le travail de terrain.
Le président de la commission électorale n'a pas annoncé la date du début d'enrôlement. Il faut, a-t-il déclaré, réunir les moyens logistiques en rapport avec l'opération d'inscription avant d'en fixer les calendriers. Kindu, Sadala Chabani, Radio Okapi.
Le désarmement volontaire de miliciens se poursuit dans l'Ituri. Trois officiers de l'UPC Lubanga ont emboîté le pas de leurs collègues qui ont rendu les armes jeudi dernier au casque bleu de la MONUC Bounia. Entre-temps, l'UPC de Floribert Kissembo annonce les désarmements de ses 9 officiers de Bounia à Skanzibia.
Trois officiers de l'UPC Lubanga ont rejoint leurs collègues ce samedi pour leur désarmement au camp marocain des casques bleus de la MONUC Bounia. Ce qui donne un nombre de 10 officiers de l'UPCL qui ont accepté volontairement de rendre les armes en faveur de la paix dans l'Ituri. Ces ex-combattants doivent être acheminés cette semaine à Kinshasa pour leur recyclage en vue d'intégrer le FRDC. Ils seront accompagnés des membres de la coordination des groupes armés de l'Ituri. Dans le même optique, l'UPC de Floribert Kissembo annonce aussi le désarmement de ses officiers pour ce début de la semaine. Cette annonce a été faite ce dimanche par le chef d'état-major de l'UPCK, colonel Lobo.
En tant que le numéro 1 de notre armée, de l'UPC Kissembo, on a toujours dit que la charité bien ordonnée commence de soi. Alors, nous sommes vraiment prêts à être démobilisés. Nous ne voudrions pas que nous soyons à marge de nos plis. Nous voulons être vraiment intégrés dans l'armée nationale. Nous sommes un nombre de 9 qui doivent déposer les armes. C'est-à-dire il y a 3 colonels, 5 majors et puis un capitaine. Dès matin, j'ose croire que nous le ferons. Nous sommes là pour chercher la paix et nous allons lutter très fort pour que la paix revienne à Ituri en particulier et au Congo en général.
Il faut noter que l'ultimatum de la MONUC pour le désarmement des miliciens en Ituri expire dans 10 jours. De Bounia, à Skanzibia Tayoro, Radio Okapi.
Toujours en Ituri, ouverture officielle aujourd'hui du site de transit de Haru, site qui va abriter 400 miliciens désarmés hier dimanche. Ces miliciens sont tous de forces armées du peuple congolais. Ce geste rentre dans le cadre du processus des démobilisations. Et puis le ministre de la Défense, Adolphe Onosumba, en mission au Nord Kivu, vient de clôturer sa visite au centre de brassage de Mouchaké. Une visite qui lui a permis de s'assurer du démarrage effectif du brassage de 6000 hommes venus des différentes unités de FRDC. Le brassage proprement dit a débuté depuis la semaine dernière. À l'issue de 45 jours de formation, ces militaires devront constituer 2 brigades qui seront disséminées à travers certains territoires du Nord Kivu. Amata dit une journée de plaidoyer sur les VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles se tient ce lundi à l'intention des décideurs du Bas-Congo. Elle est organisée conjointement par le Programme national de lutte contre le Sida et la coopération technique belge. Il faut dire que le Bas-Congo est l'une des provinces les plus touchées par le Sida. De Matadi, Eugène Kabambi.
Les chiffres annoncés ce lundi dans la salle du Ciné-Palace de Matadi sont effrayants pour la province. Selon les médecins directeurs du PNLS, la ville portuaire de Matadi occupe la troisième position des villes congolaises les plus touchées par le VIH-Sida, après Lubumbashi avec 7%, Kisangani avec 6,3%, Matadi a 5,7% des taux de prévalence du VIH contre 3,8% de Kinshasa. Au total, le Bas-Congo compte, selon les dernières statistiques du PNLS, fin 2004, près de 145 022 personnes qui vivent avec le VIH pour une population totale de 2,5 millions d'habitants. La forte concentration des activités économiques du port font que les jeunes ont plusieurs partenaires ici et n'utilisent pas régulièrement les préservatifs, explique encore le médecin directeur du PNLS, avant d'ajouter qu'environ 5 824 enfants naissent chaque année des mères séropositives dans les Bas-Congo. C'est ainsi que cette journée de plaidoyer sur le VIH-Sida a été organisée pour solliciter l'implication de toutes les autorités provinciales. Cette implication est très capitale pour la prévention et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida, a conclu le médecin directeur du PNLS. Il faut dire que la RDC compte à ce jour plus ou moins 2,6 millions de personnes vivant avec le VIH-Sida. Matadi, Eugène Kabambi, Radio Okapi.
Retour au Katanga pour parler de la clôture week-end à Lubumbashi du séminaire sur la révision du code minier. Pour le participant, le code facilite les investisseurs étrangers plutôt que les nationaux. Les travaux ont été organisés par l'Azado Katanga. Notons que ce séminaire a réuni les participants venus de Kinshasa, du Kasaï oriental, de la Zambie, du Canada et de Pays-Bas. Pour Jean-Claude Katende, président de l'Azado, les investisseurs étrangers doivent créer des sociétés génératrices d'emplois et contribuer ainsi au développement du pays, ce qui n'est pas le cas actuellement. Jean-Claude Katende au micro de Jean Gandou.
Depuis que le code est en vigueur, il n'y a pas d'investisseurs sérieux qui ont investi en République démocratique du Congo. La plupart des investisseurs qui sont là sont des gens qui sont venus s'enrichir alors que, en principe, ils n'ont rien investi d'important en République démocratique du Congo. Nous avons estimé que le rôle de l'État a été tellement réduit que l'État a été mis au même pied d'égalité que tous les autres investisseurs étrangers ou nationaux. Et cela ne permet pas à l'État de jouer le rôle de protection des populations et aussi de participer comme il se doit au développement de notre pays.
L'Institut supérieur d'études agronomiques Bengamisa, situé à 60 km de Kisangani sur la route Banalia, éprouve d'énormes difficultés de fonctionnement. Depuis plus de 6 ans, cet établissement qui forme des techniciens en agronomie manque le nécessaire. Son laboratoire est dépourvu de tous les produits nécessaires pour l'amélioration de la qualité d'enseignement. La route qui mène à cet endroit est en dégradation continuelle. Michel Katendembaï, bibliothécaire, au micro de Léon Jacques Mwamba.
Et maintenant, nous pensons que comme les choses semblent bien marcher, nous espérons que le gouvernement va penser encore à refaire comme par le passé, donc alimenter cette institution d'enseignement supérieur, puisque c'est elle en fait qui forme les praticiens, donc les hommes de terrain. Alors, si nous manquons les minimums qu'il faut pour leur formation, c'est vraiment difficile que la formation puisse être vraiment adéquate.
À l'étranger, l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a dénoncé ce lundi à Johannesburg les climats d'intimidation politique régnant au Zimbabwe à l'approche des élections législatives du 31 mars. L'intimidation politique est largement suffisante pour faire peur aux Zimbabwéens, a affirmé Tiseke Kasambala, membre de cette organisation, pour expliquer la baisse significative des actes de violence soulignés par le pouvoir comme l'opposition lors de l'actuelle campagne électorale par rapport au scrutin législatif et présidentiel de 2000 et 2002. Le vice-président zambien Lupando Mwape menace de quitter son parti, le Mouvement pour la démocratie multipartite, pour dénoncer de faits de corruption se multipliant selon lui avant la convention de cette formation politique, a rapporté ce lundi la radio publique. Okapi. 12h15 à Kinshasa, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.